Collège public CEDES, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, Adam et Ève étaient insatisfaits.
Alors, début de la leçon 6. Alors, on a insisté dans la leçon 5 sur la philosophie, vous avez remarqué. Vous savez que la philosophie ou philosophe se trouve deux fois dans la Bible. Une fois dans Colossiens 2:8 et une deuxième fois dans Actes 17:18. Donc, je vous relis Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc là, je pense que ce verset s'éclaire facilement à nos yeux et devient simple à comprendre d'après tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, attention à votre manière de penser, vous devez vous appuyer sur ce que Christ dit et pas sur ce que Tante Adèle dit ou la tradition des hommes ou le présentateur du journal télévisé. C'est pas eux qui disent la vérité, c'est Christ. C'est ce qui est dit de Christ et la vérité. Tout le reste, c'est là où c'est délicat, tout le reste est en fait un piège du diable pour faire de vous une proie, pour vous faire manger, bouffer. Et ça fait mal quand on se fait manger, surtout les premières bouchées. Alors, on va lire Actes 17:18. Acte 17 nous parle de l'histoire de Paul qui est à Athènes. Tiens, je vais lire à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, donc ses compagnons, Silas et Timothée, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. S'irrite parce qu'il se dit, ça c'est moi qui interprète, mais je pense, il s'irrite parce qu'il se dit, pourquoi ces gens sont gardés dans une telle ignorance ? Pourquoi est-ce que ces gens sont soumis au diable et au mensonge alors qu'il y a une vérité et je pourrais leur donner cette vérité-là ? Et ça, je ne supporte pas que quelque chose leur fasse du mal. Ce n'était pas simplement parce qu'il voyait des idoles et qu'il était contre les statues. Il était contre l'effet des idoles sur eux. Comme lorsqu'on veut prendre soin de quelqu'un, on veut éviter tout ce qui fait du mal à cette personne-là. Et là, c'est le cas de Paul. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Vous savez que les Athéniens étaient réputés pour avoir beaucoup, beaucoup de discussions philosophiques, justement, beaucoup de ils s'entretenaient sur les nouvelles, sur... On dirait aujourd'hui en Internet, ils faisaient le buzz assez souvent, ils voulaient vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Verset 18. « Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. » Voilà la deuxième occurrence du mot « philosophe » ou « philosophie » dans la Bible. Et on parle de philosophes stoïciens et épicuriens. Épicure a fondé, a donné la philosophie des épicuriens, bien évidemment. Épicure était un philosophe grec qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais la pensée de cet homme avait déjà 300 ans du temps de Paul. Ça faisait déjà 300 ans que les gens avaient étudié ce que Épicure disait et en discouraient, au point qu'il y avait des gens qu'on appelait les épicuriens. Ils avaient adopté cette philosophie de pensée. Cette philosophie de pensée, je le mets parce que c'est intéressant pour la suite, se basait sur 4 points. Le premier point, c'était pas de crainte des dieux. Les épicuriens n'ont pas peur des dieux. Deuxième point, c'est pas de crainte de la mort. Troisième point, on peut atteindre le bonheur. Et quatrième et dernier point, on peut supprimer la douleur. Ça, c'est la philosophie des épicuriens. En fait, si on réalise, tout est fait pour prendre soin de soi-même. L'épicurien tourne tout vers lui-même. Ils avaient une devise, le plaisir est le bien, la douleur est le mal. Ça, c'est la devise des épicuriens. Donc forcément, quel est, à votre avis, le comportement de la vie de tous les jours des épicuriens ? Le plaisir, la jouissance, tout ce qui va me satisfaire est bon, que ce soit de la nourriture, de l'argent, du sexe, du confort, de tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui amène une forme de plaisir, c'est bon pour moi. Tout ce qui me fait un peu souffrir, hop, je ne le veux pas, je le mets de côté, je le refuse complètement. Ça, c'est la pensée d'Épicure qu'il a développée, qu'il a écrite et auquel beaucoup de gens ont adhéré, déjà 300 ans après qu'il l'ait écrit. Les deuxièmes personnes là qui sont mentionnées, ce sont les stoïciens. Mais les stoïciens, c'est un peu l'inverse. Les stoïciens donc, viennent de Zénon de Citium, qui est aussi un philosophe grec, et qui aussi était 300 ans avant Jésus. Donc ces deux philosophies sont nées à peu près en même temps. Et la définition des stoïciens, c'est « le sage doit s'exercer à ne vouloir que ce qui dépend de lui et à subir sans rechigner ce qui n'en dépend pas ». C'est-à-dire, en fait, sa devise, c'est « supporte et abstiens-toi ». C'est-à-dire, s'il y a du mal, tu te tais, tu ne dis rien. Tu restes stoïque. Ça vient de là. Les stoïciens font des gens qui sont stoïques. Pas d'émotion. Si ça m'arrive, je supporte. Pas question pour moi de me mettre en avant. Pas question pour moi d'avoir des émotions particulières. Je veux laisser passer l'orage. C'est un petit peu ce qu'on dirait aujourd'hui des gens fatalistes. Il y a des choses qu'on contrôle. C'est notre propre vie dans une certaine mesure, selon eux. Et d'autres choses qu'on ne contrôle pas, et bien là, tu laisses aller. Ça, c'est les stoïciens. Donc, d'un côté, des gens qui sont tournés vers eux et qui ne cherchent que le plaisir. De l'autre côté, des personnes qui vont faire une sorte de déni de leur propre personne et qui vont vouloir rester stoïques quoi qu'il arrive. Non, je ne me laisse pas ébranler par cette chose. Ce sont deux philosophies qui ont encore cours de nos jours, en fait. Pour nous, et c'est pour ça que cette leçon est la suite de la précédente, pour nous, nous devons adopter une philosophie qui est une philosophie chrétienne, c'est-à-dire basée sur ce que Christ a dit. C'est assez incroyable de se dire que 2300 ans après que ces gens aient écrit ces choses-là, il y a beaucoup de personnes encore sur cette terre qui vivent dans cette même logique de pensée. Et en France, on voit particulièrement des épicuriens. En majorité, disons, il faut bien comprendre que tout a une philosophie. Tout porte en soi une définition du monde, une projection de la manière dont il faut penser, voilà, la manière de penser. Tout porte une projection de ça. 1 Corinthiens 15:33, d'ailleurs, nous dit « Ne vous y trompez pas, ou ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Pourquoi ? Parce que en fait, tout autour de nous détient une philosophie. Et à nous d'être fermes parce que le contact avec les autres philosophies ont tendance à imprégner notre manière de penser. Imaginez que vous soyez dans un bateau et que vous voyez à un moment donné tous les marins s'agiter, tous les marins dire « on va mourir, on va mourir ». Peut-être que vous commenceriez un peu à paniquer. Parce que leur manière de penser va déteindre sur la vôtre. Si eux commencent à dire « on va couler », peut-être que eh bien, pour vous, vous risqueriez aussi de tomber dans cette crainte-là. Ça fait penser d'ailleurs à ce que Paul a vécu quand lui, il était sur son bateau. Et lui, au contraire, avait basé sa pensée sur Dieu. Au point que lui-même a pu inverser la pensée de chacun en disant « à un moment donné, Dieu m'a parlé, Dieu m'est apparu, on jette tout par-dessus bord et tout le monde vivra, mais pour ça, il faut que vous écoutiez ce que j'ai dit. » Donc, la manière de penser va influencer très, très fortement. On a lu tout à l'heure Genèse 3.1 et on va y revenir. Pourquoi il est important d'y revenir ? Parce que, je rappelle que nous sommes dans un combat et dans ce combat, il y a une arme qui est la parole. Il y a une puissance qui est la parole. Et nous avons un ennemi qui est le diable qui cherche à réduire l'influence de la parole. Si la parole porte du fruit, il est mal, il recule. S'il y a la vérité, alors les gens sont libérés. Donc il veut tout faire pour qu'il n'y ait pas cette vérité, il veut tout faire pour que la parole n'arrive pas. Donc, nous avons vu également que ça passe par la manière de penser. C'est pour cette raison d'ailleurs que le diable a utilisé un serpent, dont il est dit « il était le plus rusé de tous les animaux ». Genèse 3.1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Non pas que Dieu a créé le serpent en tant que le diable, mais le diable a pris possession du serpent. Là. Le diable a eu la collaboration du serpent. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Remarquez que la première chose que fait le diable au travers du serpent, c'est d'attaquer la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Est-ce que cette parole de Dieu, elle est vraiment vraie ? Est-ce qu'on peut baser sa confiance sur ce que Dieu a dit ? Si on y réfléchit, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que le diable a utilisé un serpent ? Il est dit que le serpent est le plus rusé. Rusé, ça fait nettement référence à un système de pensée, à un système de raisonnement, à un système de logique. Et effectivement, le diable l'a utilisé pour parler, pour dire des choses. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que, finalement, le diable n'a pas pris possession d'un mammouth ou d'un gros lion avec des grandes dents ? Il aurait très bien pu prendre possession d'un mammouth, et le mammouth arrive auprès d'Ève, met sa grosse patte sur la tête d'Ève et dit « Je t'écrase la tête si tu ne manges pas de ce fruit ». C'était pas du tout ce que le diable a fait. Eh bien, la raison, effectivement, c'est que le diable a utilisé la tromperie plutôt que la force parce que il n'avait et il n'a aucune puissance pour forcer Adam et Ève à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est profond. Le diable n'a aucune puissance pour forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Regardez ce qui est écrit dans Psaume au chapitre 8. Et au verset 4, 4 à 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et vous savez que dans l'original hébreu, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu », c'est le mot « Elohim ». C'est réellement « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu », Elohim, le Seigneur Dieu. Tu as mis toute domination de tes œuvres sous ses mains et sous ses pieds. Dieu a choisi, en créant l'homme, de lui confier toute la création pour que ce soit lui qui domine et pas le diable. Et non seulement ça, et pas les esprits ni les anges. Non seulement ça, mais... Hébreux 1, verset 13, 13 et 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Le diable a été créé et les anges ont été créés, ou je vais plutôt dire Lucifer a été créé, parce qu'il n'avait pas été créé mauvais au départ, les anges et les dominations ont été créés au départ pour servir les humains, pour servir ceux qui devaient hériter du salut. Sachant ça, Lucifer s'est endurci, refusant que ça se passe de cette manière-là. C'est confirmé Hébreux 2, 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Dieu a choisi... non seulement sur cette terre, mais même dans le monde à venir, que ces êtres humains, là, nous que nous sommes, puissent dominer, puissent être au-dessus des anges. Il ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas accepté, il s'est dit « Non, je ne suis pas d'accord avec ça ». Mais remarquez qu'il n'avait pas de puissance pour dominer sur eux, pas plus qu'il n'a de puissance pour dominer sur chacun de nous aujourd'hui. Son seul moyen d'action, c'est pour nous de nous séduire de manière à ce que nous mettions notre propre autorité sur son compte, qu'on se laisse dominer par lui. C'est la seule manière dont le diable peut agir dans nos vies et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. C'est pour cette raison qu'il n'a pas utilisé autre chose, un autre animal, ou qu'il n'a pas utilisé la force, mais qu'il a utilisé la ruse. Parce qu'il fallait que cette autorité donnée par Dieu... il puisse l'outrepasser. Il ne pouvait pas outrepasser ce que Dieu avait fait. Il fallait donc que l'homme lui-même délègue sa propre autorité sur le diable. C'est pour ça que, lors de la tentation, le diable dit à Jésus, « Regarde tous ces royaumes de la terre, ils m'ont été donnés, pas par Dieu, ils m'ont été donnés par les humains. Ils m'ont été donnés par les humains. » Parce que les humains ont accepté de renoncer à ce que Dieu avait dit, ils ont cru le mensonge du diable, maintenant, ils m'ont placé moi-même en autorité, et moi je commande. C'est profond, hein ? La stratégie du diable, c'était d'utiliser donc la ruse, la séduction, la tromperie plutôt que la force. Et il a utilisé les paroles, il a utilisé le fait de parler pour amener Adam et Ève à réfléchir à quelque chose et à faire une décision. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, hein, par rapport à la philosophie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure Colossiens 2:8 qui dit « Veillez, attention à ce que par la philosophie, par les tromperies, on ne fasse pas de vous sa proie. » C'est exactement ce que le diable a essayé de faire et a réussi à faire avec Adam et Ève. Ce qui était vrai dans la Genèse, ce qui était vrai aussi du temps où Paul l'a écrit à Colosse, aux Colossiens, devinez quoi, c'est vrai encore aujourd'hui. Le diable va aussi essayer de nous avoir, de nous manger, en tentant de diminuer la parole de Dieu et en passant par nos propres pensées, en nous insufflant des questionnements, des remises à zéro, des remises à niveau. Il s'est attaqué directement à la parole de Dieu. Notre vie, elle est ce qu'elle est à cause des pensées que l'on a et à cause de la philosophie que l'on a. On a lu tout à l'heure Proverbe 23:7 qui dit « Il est comme les pensées de son cœur ou de son âme ». Donc en fait, tu changes, et on l'a vu également, je répète ce qu'on a dit, mais c'est pour bien montrer que c'est la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu changes lorsque tu vas changer ta philosophie. C'est ce que dit Romains 12, versets 1 et 2. Que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque tu changes ta philosophie de la vie, alors tu es transformé directement dans toute ta vie. Et de la même manière, si tu pries, mais si tu ne changes pas ta manière de penser, tu n'auras pas de résultat. C'est pour ça que la puissance que Satan utilise, c'est cette puissance de séduction, cette puissance de venir en remettant en question « est-ce que Dieu a vraiment dit que ?» Et il y a une question très intéressante à se poser là. C'est que si on se remet dans le contexte du jardin d'Éden, on se trouve avec Adam et Ève et le diable qui se dit « Cela, je vais me les faire, cela je ne les supporte pas, je serai calife à la place du calife et donc il faut que je trouve une solution. » Et la question c'est de se dire « Comment est-ce que tu peux tenter des gens qui sont parfaits, des gens qui vivent dans un environnement qui est parfait ?» Parce que aujourd'hui ce serait assez facile, nous qui sommes dans un monde déchu, de nous tenter. On voit d'ailleurs, vous voyez, nos ministres, par exemple, sont nommés pour des commissions sur l'honnêteté et sur les fonds bien placés. Ils sont obligés de démissionner parce qu'eux-mêmes sont tentés par l'argent. La tentation vient assez facilement et on y succombe assez facilement, malheureusement, surtout quand on n'a pas le Seigneur. Mais comment tenter des personnes parfaites qui sont dans le jardin d'Éden? Déjà, tu dois laisser de côté le problème de l'argent. Tu ne peux pas les tenter avec l'argent, ces gens-là. Il n'y avait pas d'argent à l'époque. Tu ne peux pas non plus les tenter avec des choses matérielles. Ils n'avaient rien. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque à convoiter. Il n'y avait pas la dernière belle maison à convoiter, les plus beaux vêtements à convoiter. Ça n'existait pas. Ils ne pouvaient pas non plus être tentés par l'aspect sexuel. Ils n'étaient que tous les deux et a priori tout allait bien entre eux. Le diable ne pouvait pas attaquer sur cet aspect-là, alors que ce sont des aspects sur lesquels aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de tentations. On ne pouvait pas non plus les tenter en leur faisant miroiter un pouvoir. Tu vas régner, tu vas dominer sur les gens, mais dominer sur qui? Il y a moi et ma femme. Et puis ça se passait bien entre eux. Il n'y avait aucune raison là-dessus. Ce n'était pas possible non plus d'aller là-dessus. Ils ne pouvaient pas les tenter non plus sur l'amertume, la manière dont mes parents m'ont traité. Ils n'avaient pas de parents. Ça devient compliqué là pour les tenter. Hein. On ne pouvait pas les tenter par rapport à leur famille, par rapport à tout ce que les autres leur ont fait de mal. Pour l'instant, il n'y avait personne. On ne pouvait pas non plus les tenter par rapport à la pollution, leur faire craindre en disant « Voyez, tout le monde est pollué, Dieu fait mal les choses. Pourquoi il y a des guerres dans ce monde ? » Aujourd'hui, on va être tenté de rejeter Dieu à cause de ça. Combien de fois on entend « Pourquoi il y a des guerres dans le monde ?» Ben là-bas, il n'y avait pas de guerre au jardin d'Éden. Il n'y avait pas de pollution non plus. La nourriture était parfaite, on ne peut même pas se plaindre que le repas n'était pas bon. Ils ne pouvaient pas non plus se plaindre du gouvernement. Ils ne pouvaient pas faire de grève contre tel ou tel ministre, ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas non plus être jaloux de ce que les autres avaient, puisqu'ils étaient seuls. Alors comment est-ce qu'on tente des gens parfaits dans un monde parfait, des gens qui ne manquent de rien? Comment est-ce qu'on les tente? Bien, ils ont été tentés, on va le lire, allez, c'est expliqué. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, voilà le mensonge, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous remarquez que c'est uniquement à partir du moment où le diable a commencé à mettre l'accent sur ce fruit qu'elle ne pouvait pas manger, qu'il est dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Auparavant, elle ne s'était pas focalisée dessus. Et ils ont été tentés, Adam et Ève ont été tentés par cette simple phrase, « Tu n'as pas tout, il te manque quelque chose. » Il a tenté de les rendre insatisfaits. Voilà la manière d'attaquer des gens qui sont parfaits dans un monde parfait, en tentant de les rendre insatisfaits. Alors maintenant, c'est difficile à dire, on ne sait pas combien il y a d'espèces d'arbres dans ce monde aujourd'hui. On suppose que dans le jardin d'Éden, il y en avait peut-être plus qu'aujourd'hui, parce que certainement plusieurs espèces ont disparu. Mais supposons que, juste pour l'exercice, supposons que dans le jardin d'Éden, il y avait 10 000 arbres fruitiers. Ce n'est pas forcément inconcevable. Eh bien, si Satan était venu et avait dit... Dieu vous a-t-il laissé manger 9999 arbres? Eh bien, s'il avait dit ça, il aurait mis l'accent sur tout ce qu'ils ont plutôt que sur tout ce qu'ils n'ont pas. Or là, il est allé mettre l'accent sur la seule chose qu'il n'avait pas. Et quand on réalise, non seulement il y a cette histoire d'arbres à manger, mais il y avait absolument tout. Tout était à disposition. Le monde entier a été fait pour eux, et on le sait aujourd'hui, mais l'air est fait pour qu'ils le respirent, le soleil est fait pour que ça puisse apporter la photosynthèse, la chaleur, l'eau est faite... Enfin, il y a tout un cycle, il y a toute une harmonie dans tout ce que Dieu a fait qui est parfaite. Tout est complet, il ne manque rien. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était un arbre sur lequel Dieu avait dit « je ne veux pas que tu en manges ». D'ailleurs, entre parenthèses, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas l'arbre de la vie. Ce qui veut dire qu'ils auraient très bien pu manger de l'arbre de la vie, gratuitement, et vivre éternellement. Ce n'était pas interdit. Tout était autorisé, sauf une seule chose. Et là aussi, on peut se dire, oui, mais alors, si Dieu avait autorisé tout, eh ben, on ne serait pas là. Et oui, quelque part. Mais ce qu'il faut se dire aussi, moi je crois que si Dieu a... justement choisi une seule chose parmi les milliers, les centaines de milliers, les millions de choses qu'il pouvait faire librement, s'il en a choisi une seule où il a dit non, c'était pour leur laisser un choix. C'était pour qu'ils puissent, pour leur montrer vous êtes libre de me suivre, libre de m'aimer, libre de me faire confiance ou pas. Puisque vous êtes des gens libres, vous devez avoir un choix. Si j'ai un expert comptable et que je fais confiance à cet expert comptable, et que je ne lui autorise pas à voir certains comptes, si je ne lui autorise pas à ouvrir la caisse et toucher la caisse, il n'y aura pas de tricherie, mais il n'y aura rien. Il n'est autorisé à rien faire en réalité. Si je veux avoir sa confiance et savoir qu'effectivement il est juste, je suis obligé quelque part de lui laisser la possibilité de ne pas me faire confiance et de ne pas être honnête. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a voulu leur mettre un choix pour qu'eux-mêmes prennent la décision « oui ou non, je vais servir Dieu ». Oui ou non, l'autorité de Dieu est ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie. Ce que Dieu a fait pour moi me suffit. Imaginez que Ève ait répondu au diable, enfin au serpent, quand il a dit « il y a bien un arbre là que tu ne peux pas manger ». Et si elle avait dit « tiens, on va faire un tour, regarde celui-là, Je peux le manger. Elle en prend. Elle passe au suivant. Et celui-là, je peux. Et celui-là, je peux. Arrivé au 9999e, c'est pas qu'elle avait plus faim, parce que ça aurait pu durer longtemps, mais c'est surtout que, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce dernier arbre que j'ai peint? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que d'un coup j'ai besoin de me focaliser sur la seule chose que j'ai pas alors que j'ai tout? Voilà la manière dont elle aurait pu réagir. Et elle aurait pu aussi réagir, parce que là c'est important, le diable a attaqué la bonté de Dieu. Le diable a attaqué sur l'aspect de dire, en fait, Dieu vous ment, Dieu vous frustre, Dieu veut vous empêcher d'avoir quelque chose qui est important pour vous. Si Dieu vous aimait, vous mangeriez de tout. Et il et elle ont cru ce mensonge qui était lié finalement à la personne même de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour nous de connaître de mieux en mieux qui est Dieu. Et de toute façon, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Tant qu'on est dans ce corps, tant qu'on est sur cette terre, on aura une connaissance partielle et limitée. Mais il n'empêche qu'on a besoin de grandir dans la connaissance de qui est Dieu pour savoir effectivement, quand quelque chose arrive, est-ce que c'est bien Dieu qui l'a envoyé ou pas? Est-ce que je dois marcher sur ce chemin ou sur ce chemin? Comment est-ce que je peux appréhender cette situation? Est-ce que je peux me baser sur ce que Dieu veut dans ma vie ou pas? Et on a besoin de connaître Dieu à ce sujet. Et c'est une mauvaise philosophie, finalement, de rejeter tout le bon que Dieu a fait pour une seule chose qu'on n'aurait pas. C'est une philosophie dans laquelle ils sont rentrés, Adam et Ève, en disant, oui, finalement, Dieu n'est pas si bon que ça avec nous. Et remarquez d'ailleurs qu'après avoir péché, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de Dieu alors que Dieu n'essayait pas de leur faire du mal. Mais leur manière de penser, ils ont projeté que Dieu n'était pas bon. Puisque Dieu n'est pas bon, alors Dieu veut me faire du mal, maintenant que j'ai désobéi. Ils n'ont pas compris que Dieu les aimait parce que Dieu est amour. Ils ont cru que Dieu les aimait parce qu'ils obéissaient à ce que Dieu disait. Vous voyez, il y a tout cet enchaînement de choses qui sont venues. Et nous aussi, on va malheureusement, à cause d'une chose qui ne va pas, laisser tomber plein de choses. Il peut y avoir quelqu'un qui a une belle maison et ça y est, parce que j'ai tel problème, ma lampe ne marche plus, ça y est, c'est la catastrophe, ma journée est finie. Pourquoi tu loupes à Dieu de ce que tu as un toit d'abord? C'est une manière d'appréhender les choses, c'est une manière de voir les choses. On pourrait dire, oui, mais j'ai mal aux pieds, mon pied me fait souffrir. Oui, mais il y a des gens qui n'ont même pas de pied. Tu peux remercier Dieu parce que tu as un pied, tu sens la douleur, ça veut dire que tu as un pied. C'est ça aussi rentrer dans vouloir connaître et agir dans la bonté de Dieu, reconnaître qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Je ne suis pas encore guéri, mais ce n'est pas grave, je le serai un jour. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus catastrophique. Sachant que nous sommes maintenant dans un monde déchu, Satan va d'autant plus nous tenter de la même manière. Si cette technique marche dans un monde parfait, ce sera du beurre dans un monde déchu. Et c'est pour ça qu'on doit être au courant de ça. Le monde est là pour nous faire croire que ce que l'on a n'est pas suffisant. Il me faut la dernière voiture, il me faut le dernier téléphone portable, il me faut une femme plus jeune, il me faut un meilleur boulot plus payé, etc. etc. Je ne suis jamais satisfait. Et ça, c'est carrément plonger dans le piège du diable dans nos vies qui nous amène à la mort. Néhémie 8, 10 dit... La joie du Seigneur sera ma force. Le diable essaie d'enlever notre joie. Si j'ai plus de joie, j'ai plus de force. Puisque la joie du Seigneur est ma force. Il faut louer Dieu pour tout le bien qu'il fait dans notre vie. Louons Dieu pour les 9999 choses qu'il nous permet de faire, plutôt que de nous focaliser sur la 10 000e qui ne va pas. Sinon, on va être sujet, on va ouvrir grand les portes au diable en disant « Vas-y, je fais la cible, tire, vas-y. » On avait lu tout à l'heure dans Colossiens 2, mais là c'est au verset 7. « Étant enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. » Abondé là-dedans. Paul est en train de dire aux Colossiens, il y a quelque chose d'important, vous devez remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nos prières devraient être des prières où on commence à louer Dieu, et plus on va louer Dieu pour ce qu'il a fait, plus ce pourquoi on va prier va diminuer de soi-même. Je crois que c'est dans le psaume 34 d'ailleurs qu'il est dit « Magnifiez l'Éternel, exaltez avec moi l'Éternel ». Le mot c'est « magnifier ». « Magnifier » ça veut dire « grandissez ». Charlemagne, c'est Charles le Grand. Rendez grand. C'est comme une paire de jumelles. Vous avez un petit bout, un endroit où c'est petit, un endroit où c'est gros. Si tu mets l'endroit petit vers toi, tu vas grossir les objets. Mais si tu retournes, les objets vont être très petits. Si tu mets le Seigneur grand, les problèmes vont devenir plus petits. Mais si tu mets grand tes problèmes, Dieu va devenir plus petit. Tout dépend de comment on regarde dans nos jumelles. Hébreux 11, 15 nous parle d'Abraham. Hébreux 11, 15. S'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, ou ils auraient eu l'occasion d'y retourner. La tentation ne vient que par ce sur quoi on se focalise. Tu ne peux pas être tenté sur quelque chose sur lequel tu n'as pas médité au moins une fois. Tu ne peux tomber dans un péché que si tu as déjà médité ce péché dans ta tête, que si tu as déjà pensé à cette possibilité. Vous avez peut-être déjà vu cette expérience. J'avais vu une image avec plein de dauphins qui sont mis les uns avec les autres. Donc les dauphins ont une couleur, disons du bleu, et il reste du blanc. Et tel que les dauphins sont mis, le blanc forme aussi une forme. Et ces formes sont des formes, dans l'étude là que j'avais vue, sont des formes de position sexuelle entre un homme et une femme. Et ils ont dit, lorsqu'on montre cette image à un enfant petit, il ne voit que des dauphins. Si on le montre à un adulte plus grand, il peut voir deux choses. Parce que, à un moment donné, dans la pensée de cet enfant, son esprit, sa pensée n'a pas imprimé la possibilité que ça représente quelque chose qui existe. Ce n'est pas possible. Donc, je ne vois pas. Parce que ça n'existe pas. C'est la même chose dans toute forme de péché qui peut arriver. Ce que je vous dis est tellement vrai que même dans la justice des hommes, on va tenir compte de ça. Quand il y a un meurtre, eh bien, s'il y a préméditation, ça veut dire que la cause est plus grave. S'il n'y a pas préméditation, c'est un accident. Il y a eu mort, mais c'était involontaire. La personne n'a pas pensé avant qu'elle allait tuer l'autre. Préméditation, c'est intéressant, c'est un terme juridique. Hein. Tu ne peux aller et être tenté que là où tu as déjà pensé. C'est pour ça que le diable a voulu faire penser Ève sur cet arbre-là auquel elle n'avait jamais pensé avant. Ça ne l'avait jamais attiré. Elle l'avait vu, elle avait même vu qu'il était au milieu du jardin. Je ne crois pas personnellement qu'elle était attirée à quoi que ce soit de cet arbre de particulier. Puisqu'il est dit qu'après qu'elle ait parlé, elle a vu que l'arbre était beau. On dirait, elle a remarqué que, ah ben tiens, j'avais pas vu que jusqu'à présent c'était si beau que ça. Tiens, ça me donne envie maintenant. Matthieu 5, verset 27-28. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vous savez que le cœur, c'est le siège des pensées profondes et intimes. En fait, il a déjà médité de faire cet acte avec elle. Ça ne finira que par suivre à un moment donné ou à un autre. L'adultère n'est possible que lorsque quelqu'un, en l'occurrence les deux, ont imaginé cette chose possible. D'ailleurs, c'est pareil, si dans un mariage, les deux n'imaginent même pas concevable et possible que le divorce arrive, il n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien entre eux. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas être tenté de le faire vu que c'est une option qui n'existe pas. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on doit décider par avance jusqu'où je vais. Quelles sont les options que je me permets de vivre ou de ne pas vivre. Quand je vous parlais tout à l'heure de cette mini-dépression, il est clair que j'avais dans mon cœur cette absolue certitude que je ne veux pas rentrer là-dedans. Je m'interdis de penser dépression. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive forcément, hein. Mais si on ne le fait pas, alors là, c'est la boule de neige qui grandit. Parce qu'on a laissé finalement un champ libre. Ève, effectivement, aurait très bien pu dire, ben non, Dieu est bon, regarde tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. J'ai pas besoin de cette chose-là. S'il m'a demandé de pas en manger, c'est peut-être pour mon bien vu qu'il m'aime. Hop, fin de l'histoire, terminé. Parce qu'on va laisser quelque chose rentrer en nous, alors malheureusement ça peut dégénérer. Et il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis du monde qui nous entoure. J'avais lu une étude, dont je me rappelle plus les chiffres, mais en gros, un enfant de 10 ans aujourd'hui a vu plusieurs milliers de meurtres, plusieurs milliers d'adultères, parce que, eh bien, dans chaque film, il y en a un. Et tous les jours, il va regarder un ou deux films. Et ça va très, très vite. Et à un moment donné, ben, il ne faut pas s'étonner que toutes ces choses qu'on plante en soi portent du fruit. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des comportements de colère, de meurtre, d'adultère, sachant que ça a été semé jour après jour, jour après jour. Et ce n'est même pas « non, je ne le ferai pas », c'est normal de le faire. La vie normale, c'est « je me mets avec quelqu'un juste parce que j'ai un coup de foudre, je la laisse tomber 6 mois après et je retrouverai quelqu'un d'autre parce que c'est comme ça que ça se passe ». Et c'est un mensonge complet, sauf que ça devient une philosophie. Ça ouvre la porte à l'enfer. Donc on doit être vigilant à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend. Et comme il est écrit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi, tu la condamneras ». Lorsqu'on voit des choses comme ça, lorsqu'on entend des choses comme ça, il est bon dans notre cœur de prendre une position, et c'est bien de le faire à voix haute aussi, en disant « non, je ne marche pas là-dedans. Non, ça, ce n'est pas bien. Non, ça, ce n'est pas juste. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. » Romains 16, 19 et Matthieu 10, 16. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien » est pur en ce qui concerne le mal. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je désire donc que vous soyez pur ou simple en ce qui concerne le mal. Nous ne devons pas méditer sur des choses qui sont mauvaises. Je me rappelle quand j'étais une douzaine d'années, je pense, et il y avait des films qui me plaisaient beaucoup. C'était des sortes de policiers ou... Il y avait des intrigues un peu complexes et comment on va faire pour arriver à aller dans la banque sans se faire prendre, etc. Et en fait, je m'exerçais à réfléchir, mais et si jamais je devais, moi, m'occuper et aller chercher dans une banque, comment je ferais? Je ferais comme ci, comme ça. Et je me croyais vraiment intelligent de faire ça. Mais la Bible nous dit l'inverse. Elle dit non, non, vous devez être simple en ce qui concerne le mal. Il faudrait que les choses du mal, on puisse les regarder avec des gros yeux en disant, je comprends pas, je sais pas ce que c'est. Des fois, on est trop au courant des fois, de certaines choses, mais ce n'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Il faut qu'on soit axé sur ce qui est bien, et ce qui est mal, ça ne nous intéresse pas ce que font les gens. Ça ne nous intéresse pas. On n'a rien à gagner là-dedans. Matthieu 10, 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Prudent et simple comme les colombes. C'est le même mot, en fait, c'est le mot grec akeraios, qui est utilisé dans Romains 16. Soyez simple quant au mal. Soyez simple. C'est-à-dire, ne cherchez pas à connaître tout ce qui se fait de mal. Ne cherchez pas ces choses-là. Mettons déjà notre pensée, nos cœurs en Christ, ça nous suffit. Le reste, c'est pour ceux qui ne cherchent pas Dieu. Lisons maintenant 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 17. Ce passage-là, il va remettre en question nos philosophies. C'est Paul qui parle. « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » 2 Corinthiens 11, 23, 27. On est dans la même épître. C'est toujours Paul qui est en train d'écrire cette même épître de Corinthiens 11, à partir du verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Donc déjà, pour comprendre ce chapitre-là, Paul est en train de défendre son ministère par rapport aux Corinthiens, puisque des gens étaient venus à Corinthe et avaient dit « Ce Paul, arrêtez de le suivre. Il vous raconte plein de choses qui ne sont pas sérieuses. » Revenez un petit peu à la loi de Moïse, ça ira beaucoup mieux, etc., etc. Nous, on est des vrais apôtres, nous, on s'occupe de vous. Et Paul est en train de dire, non, 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 moi, j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé pour vous beaucoup plus que eux. Eux, ils sont venus, ils essaient de profiter de vous et de vous voler les bénédictions du Seigneur. Et moi, j'ai vraiment travaillé pour vous. Par les coups, bien plus. Ah, j'ai pris plus de coups qu'eux. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Vous savez pourquoi on donnait 40 coups moins un? Parce qu'à 40, on meurt. 40, c'est les Romains qui avaient développé des techniques très sophistiquées sur les tortures, avaient vu qu'au bout de 40 coups, la personne meurt. Mais 39, non. Intéressant. 5 fois, Paul est passé à ce point près de la mort. 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. Vous avez été battu de verge, moi, non? C'est quand même énorme. Hein. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et je suis persuadé qu'il est mort à ce moment-là. Et qu'il a été ressuscité lorsque les disciples se sont mis autour de lui. Puisqu'il a dit aussi, je connais quelqu'un qui est monté au troisième ciel et qui a vu des choses que je ne sais pas dire, qui sont interdites de dire. Je pense qu'il est vraiment mort et qu'il est ressuscité. Et il est dit, une fois j'ai été lapidé. D'ailleurs, remarquez, quand il a été lapidé, il est dit que les gens l'ont traîné dehors pensant qu'il était mort. Et je pense qu'il l'était réellement. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois j'ai fait naufrage. Et là, vous vous rappelez ce passage où il a fait naufrage, où pendant plus de 2 semaines, il n'a pas fait jour une seule seconde. Ça a été un orage terrible. Moi, j'ai vécu en Méditerranée sur un bateau une tempête. Ça a duré que quelques heures. Mais ça suffit pour être pas bien du tout. Hein. Ça suffit pour te dire, ça y est, ma dernière heure est arrivée. Et quand ça dure 2 semaines, que tu n'en peux plus, que tu as jeté la cargaison, puis après les agrès, et puis de plus en plus pour essayer d'alléger le bateau, et que personne n'a rien mangé, et que finalement tu te dis, est-ce qu'un jour, au moins, je vais mourir? Combien de temps ça va durer, cette histoire? Même pas une seule seconde de soleil. C'est fou, hein? Et lui, il a fait 3 fois naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Je ne sais pas faire de commentaires là-dessus. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Ça aussi, c'est pas drôle. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait voler, mais se faire attraper par des brigands, c'est encore pire. C'est un choc, hein, quand même. Hein. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers. Ah, moi, je suis rejeté. Ma copine à l'école, elle me parle plus. Ah oui, mais là, c'est ceux de ma nation et les autres. Où que j'aille, dans n'importe quel pays que je vais, on ne veut pas de moi. Je vais dans les villes, on me rejette. Dans les déserts, je vais me faire tuer là-bas. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Même avec les chrétiens, il y avait des faux frères qui voulaient ma mort, qui voulaient que ça se passe mal pour moi. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Nombreuses veilles. J'ai travaillé au point de même pas dormir. À la faim et à la soif, à des jeûnes multiples. Là, ce n'est pas un jeûne volontaire parce que j'ai envie de prier pour le réveil. Hein. C'est, j'y avais rien à manger. J'allais mourir. Au froid et à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Mais il a été béni. Et alors, c'est ce même homme qui écrit « Nos légères afflictions du moment ». Je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait que nous, on nomme nos afflictions. Si lui, il appelle ça nos légères afflictions du moment. Eh bien, il dit, ça produit pour nous un poids éternel de gloire. En fait, il ne s'agit pas tant du problème que l'on vit. Ce qui est important, c'est notre manière de réagir à ce problème. Il y a des gens qui sont allés en prison et qui sont devenus fous. Paul est allé en prison et il a chanté des cantiques. Et les gens se sont convertis autour de lui. Et les prisons de l'époque, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui avec Canal+. Hein. Il n'y avait même pas la lumière. Mais il donne une explication. Il nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Il est important, dans tout ce qu'on vit, d'arriver à mettre ce qu'on vit en rapport avec l'éternité, en rapport avec des choses éternelles. Est-ce que vous avez déjà fait des réflexions avec vous-même en vous disant, tiens, il y a tant de temps en arrière, il m'est arrivé telle situation qui était vraiment, vraiment pas facile. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que tout allait tomber. Puis aujourd'hui, 2 ans après, je me dis que finalement, c'était pas si terrible. Ça arrive, hein? Ça nous arrive. Et c'est important pour nous de voir les choses en perspective. Évidemment, quand on est dans le problème, c'est dur et c'est très dur. Et j'ai compris qu'on ne peut pas mesurer les degrés de difficulté de chaque personne et les comparer. Quand quelqu'un est dans son problème, c'est le pire problème du monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse comparer les choses par rapport à l'éternité. En provoquant un peu, ce que Paul est en train de dire, c'est de dire, finalement, c'est des choses passagères. c'est des choses pour lesquelles ce sont des légères afflictions parce que finalement j'ai été battu que pendant 20 ans de ma vie. Mais lui, ça fait 2000 ans qu'il est au ciel. Qu'est-ce que c'est que ces 20 ans par rapport à 2000? Il a déjà vécu 100 fois plus. Et il vivra 100 millions de milliards de fois plus, comme chacun de nous. Il faut qu'on arrive à approcher les choses difficiles, j'entends, et qu'on puisse se dire, et là, c'est en ça que ça va choquer nos philosophies, hein, mais qu'on puisse se dire, c'est passager. Qu'on le veuille ou non, on n'a qu'une vie, et c'est maintenant. Ça ne durera pas tout le temps. Aussi dur que ce soit, ça ne durera pas tout le temps, et c'est ce point-là sur lequel Paul met l'accent. Paul dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses invisibles, les choses éternelles. Celles qui sont visibles, elles sont passagères. C'est quand même fou pour quelqu'un qui se fait tuer, qui se fait lapider. C'est sûr que quand tu prends 39 coups et que tu es au point de mourir, t'as beau te dire c'est passager, tu as mal quand même, bien évidemment. Tu souffres quand même. Mais la différence, c'est que Paul avait une vision de Christ, de qui Christ est, de ce que Christ a fait pour lui, et de dire, oui, j'ai souffert. Peut-être qu'en sortant de prison, j'irai encore prêcher et j'aurai encore 39 coups. Mais après tout, un jour, peut-être que je mourrai et je serai auprès de Dieu, même si c'est mourir des coups. Dans tous les cas, je gagne. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est quoi? Finalement, c'est qu'on meurt sur cette terre. Mais à ce moment-là, on a tout gagné. En fait, en tant que chrétien, on ne peut pas perdre. On va perdre uniquement si on se soumet à la philosophie du diable qui fait croire que la vérité, c'est ce qui est en ce moment présent, physique, ce que tu touches, ce que tu vois, et que si tu n'as pas tes besoins tous satisfaits, tu es le plus malheureux. Eh bien, tu tombes dans le piège. Et ce n'est pas du tout ce que l'Évangile dit, ce n'est pas du tout ce que Paul dit. On va pouvoir lire, par exemple, quelques versets. Donc, on commence par Jean 14, 2. Avec Apocalypse 22, 21. Ensuite, on va prendre Matthieu 22, 30. On va prendre Hébreux 13, 5. Hébreux 2, 11. 1 Corinthiens 15, 54. 1 Corinthiens 15, 42 et 43. On a dit qu'il fallait qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, mais c'est ce qu'on va faire. Supposons que sur cette terre, notre difficulté soit financière. Qu'on se dise, moi je m'en sors pas, je vais mourir demain parce que j'ai plus d'argent, les huissiers viennent, j'ai des dettes, j'en peux plus, je vais mourir. Eh bien, je vous ai mis deux versets, il y en aurait plus, hein, mais c'est juste pour donner une idée. Jean 14, 2, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand bien même on va croire dans le fait que Dieu veut nous faire prospérer, et même matériellement, quand bien même ça ne se réalise jamais sur cette terre, c'est passager. Un jour, j'aurai une demeure que Dieu a fabriquée spécialement pour moi. Et quelque part, est-ce qu'il vaut mieux avoir une belle demeure sur cette terre et ne pas en avoir au ciel, ou l'inverse ? Il est clair qu'il vaut mieux l'avoir au ciel. Après, si on en a sur cette terre, ben, pourquoi pas? Il faut juste que ce ne soit pas une occasion de chute pour nous. Apocalypse 21, 21. Il est dit que même au ciel, il y a une place ou une route, selon les versions, qui sont couverts d'or. Dieu a réservé de bonnes choses pour nous. Et quand bien même on ne vit pas sur cette terre ce que Dieu voudrait pour nous, c'est passager. Ce n'est pas le plus important, ce qui compte le plus, ce à quoi je dois le plus m'accrocher. Si vraiment je n'arrive pas à avoir de l'argent, eh bien je laisse tomber Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est j'ai confiance en lui et je sais que quoi qu'il arrive, un jour ou un autre, j'aurai ma demeure. Je marcherai même sur de l'or. Vous rappelez qu'il est dit du temps de Salomon que tout ce qui était d'argent, on n'en tenait même pas compte, on le jetait, on marchait dessus tellement c'était peu de choses. Au ciel, c'est l'or. Il y a des gens qui ont des combats là-dessus. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Regardez ce que nous dit Matthieu 22, 30. Ça, c'est dans le cas où on a des difficultés dans le couple. Matthieu 22, 30 nous dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. On peut se réjouir. si j'ai un mariage, si déjà je suis marié, si déjà ça se passe bien, tant mieux. Mais de toute façon, tous les soucis du mariage, j'en aurai plus du tout, plus jamais. Plus jamais. Le ciel est ce qui est le plus important. C'est avec des paroles comme ça qu'on peut se consoler et dire, ce sont des afflictions passagères, temporaires. Oui, d'accord, je souffre. Oui, j'ai souffert, mais Dieu a des bonnes choses pour moi. Dieu a des bonnes choses en réserve. Si je souffre de rejet, si je suis quelqu'un qui, au moindre mot, ne me sent plus aimé, il ne m'a pas regardé, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ou des choses comme ça. Hébreux 13, 5, Dieu a dit lui-même, on peut lire tout le verset, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Ma fille a fait sa rentrée au lycée, et très rapidement, elle est revenue en larmes parce que les copines lui avaient dit « Tu viens pas avec nous ». Elle se sent rejetée. Et elle l'était. Sauf que la parole de Dieu est là pour nous relever et pour dire « Moi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je serai avec toi toujours. » Hébreux 2, 11. « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire Dieu et nous, sont tous issus d'un seul, plutôt Jésus et nous. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il y a des gens qui vont te rejeter, qui ont dit « T'es plus mon copain, t'es plus ma femme, t'es plus... » etc. Il est dit de Jésus, il n'a pas honte de vous appeler frères et sœurs. Moi, je rajoute sœurs, mais ça marche aussi. Dieu n'a pas honte de vous. Dieu est fier de vous. Si le monde vous rejette, Dieu est fier de vous. Ça, c'est des choses qui doivent changer notre manière de voir le monde. Et moi, je crois vraiment à la volonté de Dieu dans la guérison. Je crois vraiment que Dieu veut agir. Il agit à la nouvelle naissance dans notre esprit, mais qu'il veut aussi nous renouveler dans nos pensées, dans notre âme, et qu'il veut guérir notre corps. Mais supposons que ça n'arrive pas sur cette terre. Supposons qu'on ait une maladie et qu'on en meure. Ça arrive, hein ? On ne va pas se voiler les yeux, ça arrive. Eh bien, il est dit... 1 Corinthiens 15, 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » À un moment donné, tous nous aurons un corps glorifié. Un corps qui n'aura plus de souffrance, plus de douleur, on pourra se baisser facilement, ce n'est pas un souci. On n'aura pas de problème de mémoire, on n'aura pas toutes ces choses qui peuvent nous peser, on aura un corps parfait. Et quand bien même ça n'arrive pas sur cette terre, un jour, oui, j'aurai un corps parfait. Donc si ça arrive sur cette terre, tant mieux, mais de toute façon, sachez qu'il est moins bon que ce corps qui aura à venir. Si on s'attache tout, si on met toute notre foi là-dedans en disant « Si demain à midi je ne suis pas guéri de ça, je lâche Dieu », on est complètement à côté de la plaque. Il a quelque chose en réserve qui est bien merveilleux. Et je ne veux pas diminuer la guérison, j'y crois à la guérison. Hein. Comprenez que c'est autre chose. On est en fait sur un autre niveau. C'est pour ça qu'il faut faire attention là où on met l'emphase. Si je mets l'emphase uniquement sur le fait que oui, je dois être guéri de cette chose-là, tu vas devenir amer si ça ne se passe pas, tu vas avoir des mauvaises pensées, tu vas en vouloir à la bonté de Dieu, et le diable aura un plein chemin pour te tenter et pour te détruire. Et tu vas passer complètement à côté de la plaque. Et plus tu vas croire en la bonté de Dieu, plus l'esprit en toi va agir directement dans ton corps. Et moi, je suis aussi persuadé que la guérison physique, elle arrive par là aussi. On va lire le verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. » Et c'est extraordinaire. Vous savez que quand notre corps est semé, vous le savez, c'est un bébé qui naît, il a des neurones. Et à partir du moment où il est né... ça diminue. Il est semé, le corps est semé corruptible. Le corps va vers la vieillesse et vers la mort, qu'on le veuille ou non. Mais il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Vous vous rendez compte que même si aujourd'hui vous dites « Bon, je ne suis pas fort, je ne suis pas grand, je ne suis pas musclé, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. » Mais là, vous aurez tous et nous aurons tous un corps glorieux. Il est semé infirme, c'est-à-dire... il est semé en ayant beaucoup de faiblesses, des difficultés. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Eh bien, nous aurons ça, et c'est là-dessus qu'on doit se baser, qu'on doit décider de s'appuyer sur la parole de Dieu et de dire « Je ne vais pas laisser ma joie être prise par le diable, je ne vais pas laisser l'insatisfaction être volée, je vais me focaliser sur ce que Dieu a fait de bon, et quand bien même sur cette terre je vois aucune réponse à quoi que ce soit, je sais qu'au ciel, quelque chose m'attend qui va me consoler d'absolument tout. Il n'y aura plus de larmes au ciel, le Saint-Esprit va enlever chacune de nos larmes. Plus de douleurs, plus de cris, plus de souffrances. Et ça, c'est extraordinaire. J'espère que vous comprenez le sens. Hein. Je ne diminue pas quoi que ce soit de ce qu'on peut avoir sur terre. Je veux simplement mettre le focus, notre attention sur le fait de « je ne veux pas rentrer dans ce piège de séduction, d'être insatisfait de ce que je vis. Dieu m'a tout donné. Vous vous rendez compte qu'on respire de l'air ? Dieu a fait ça pour nous. Voilà, il nous a donné énormément de choses. On peut se réjouir de tout ce qu'il a fait plutôt que de se plaindre de ce qu'on ne voit pas. Mais on peut surtout avoir la foi de tout ce qui est à venir. » Et ça, c'est extraordinaire. Amen.